Bon, ce matin, je voudrais vous demander de prendre un petit moment dans la prière, que chacun puisse incliner sa tête devant le Seigneur et implorer sa grâce, lui demander de lui accorder l'intelligence de l'Esprit, la seule qui nous permette de comprendre, de recevoir et de mettre en pratique ce qui vient de la part du Seigneur. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Comme tu le soulignes toi-même dans ta parole, il y a un temps pour tout, un temps, Seigneur, où tes enfants sont invités à s'approcher de toi pour te louer et t'adorer. Un temps où chacun de nous, sauvé par grâce, régénéré par la puissance de ton Saint-Esprit, oui, un temps où chacun de nous est appelé à s'approcher de toi pour se rassasier de ton image, pour s'ouvrir à ta présence magnifique, puissante, transformatrice. Il y a un temps où tu nous appelles, Seigneur, à boire ta présence, en te contemplant dans ta majesté, dans ta splendeur, dans ta beauté parfaite. Mais il y a aussi un temps, Seigneur, où tu nous demandes de nous asseoir très humblement tes pieds, de nous tenir là, quoi, devant toi, et te tendre une oreille attentive afin de recevoir de toi, Seigneur, ta parole. Cette parole est une véritable nourriture pour notre être. Cette parole, Seigneur, que nous nous apprêtons à recevoir est le nutriment ou possède tous les nutriments indispensables, essentiels pour notre croissance, tous azimuts, alors que nous poursuivons notre marche avec toi. Merci, merci de nous parler. Merci de poser ta main sur nos cœurs, de les rendre, Seigneur, sensibles à ta voix, sensibles à ta pensée. Merci, ô Dieu, de poser également ta main sur ton serviteur et de l'aider à proclamer ta parole avec assurance, à proclamer ta parole de manière claire, intelligible, compréhensible, afin que chacun de nous puisse saisir la vérité portée par ta parole et que cette vérité finisse par devenir, par se cristalliser en nous et par faire corps avec notre âme et notre esprit. Car c'est alors, Seigneur, que nous te connaîtrons, et te connaissant, nous serons libérés de toute forme d'esclavage. Bénis chacun de nous, et que cette parole trouve un cœur, ou des cœurs bien disposés à la mettre en pratique. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien, nous allons revenir, au risque de fatiguer certains, revenir une fois de plus sur notre thème qui nous accompagne, voilà déjà plusieurs dimanches, et j'aimerais vous dire que c'est ce thème qui risque de nous accompagner jusqu'à la fin de cette année, c'est-à-dire à la fin de ce mois. C'est un thème qui est appelé à nous préparer à entrer dans la nouvelle année, car passer à la nouvelle année revient à passer à une autre étape de notre vie. Alléluia. Il est donc important que nous comprenions toutes ces vérités en rapport avec notre marche avec Dieu. Il est donc important que nous réalisions, comme nous l'avons vu en plus d'une fois, que notre vie est une succession des saisons qui ne se ressemblent pas forcément. Notre vie est une suite d'étapes par lesquelles nous sommes appelés à passer. Oui, notre vie est appelée à nous amener de rive en rive et de rivage en rivage. Et chaque rive sur laquelle nous arrivons doit être considérée comme un nouveau palier dans notre vie. Et à chaque palier, il y a de nouvelles réalités, il y a de nouvelles choses que nous devons expérimenter. Il y a une certaine révélation de la personne de Dieu que nous devons recevoir. Alléluia. Donc, nous allons parler une fois de plus qu'il est temps, que le temps est venu de passer sur l'autre rive, de tourner le dos au passé, de ne pas nous laisser gagner par la nostalgie, ou alors de ne pas nous laisser obnubiler par le succès présent, par la réussite présente, au risque de vouloir construire des maisons, oubliant que nous sommes dans un voyage, et dans ces voyages, nous serons amenés à aller d'étape en étape et de rivage en rivage. Amen. Nous allons lire juste un texte que nous avons lu la fois dernière, à savoir Nombre, chapitre 33, les trois premiers versets. Nombre, chapitre 33, les trois premiers versets. Ça résume un tout petit peu, ou du moins, ces trois versets nous montrent qu'Israël est parti d'étape en étape jusqu'à ce qu'ils arrivent au bord, sur les rivages du fleuve du Jourdain, avec en vue, eh bien, la terre promise. Verset premier, nous lisons. Voici les étapes des Israélites qui sortirent du pays d'Égypte par corps d'armée sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche d'étape en étape d'après l'ordre de l'Éternel, et voici leurs étapes selon leur marche. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque. Les Israélites sortirent librement à la vue de tous les Égyptiens. S'il y a un détail qui saute à nos yeux à ce stade, après lecture, brève lecture de ce passage, c'est que Dieu a tenu à ce que Moïse mette par écrit toutes ces étapes par lesquelles il a fait passer Israël. Et Paul nous dira plus tard, l'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens, que toutes ces choses, tous ces événements, bons, heureux ou malheureux, sont arrivés à Israël pour nous servir d'exemple, et ce pour notre instruction, et ce pour nous avertir. Alléluia. Donc nous avons tout intérêt à être très attentifs quant à la manière dont Israël a marché, comment Israël s'est engagé dans cette odyssée aux multiples péripéties, odyssée qui l'a conduit de sa sortie d'Égypte, en passant par la mer de roseaux, la mer de jonques, jusqu'à ce qu'ils arrivent aux portes de la terre promise, de cette terre de béatitude que le Seigneur leur avait promise. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, si cela a été écrit pour notre instruction, pour notre avertissement, si cela est arrivé comme un signe, comme un exemple, alors nous devons faire très attention à cette exemplarité d'Israël et tirer des leçons, voir là où ils ont eu de la peine, là où ils ont attristé le Seigneur, là où ils ont malheureusement maugréé, murmuré, au point de s'attirer la colère de Dieu, faire tout pour que nous ne nous retrouvions pas dans la même situation. Alléluia. Car si Israël est le peuple de Dieu, tel que Moïse l'a fait sortir d'Égypte, n'est plus là, mais ce Dieu qui les avait délivrés par sa main toute puissante, lui est encore vivant aujourd'hui. Alléluia. Donc nous avons tout intérêt, mes amis, à nous imprégner de l'histoire de ce peuple d'Israël, à faire attention aux différentes étapes qui ont marqué leur périple depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la terre promise. Gloire à Dieu. Voir, examiner comment, quelles sont les étapes par lesquelles Israël est passé alors qu'il était en route vers le pays de la promesse. Gloire au Seigneur. La fois dernière, nous avons parlé de quelques étapes par lesquelles les Israélites sont passés après leur sortie d'Égypte, après que Dieu a accompli une œuvre de délivrance et de libération extraordinaire, après que Dieu se soit révélé non seulement aux Égyptiens comme étant le redoutable guerrier, comme étant le Dieu qui écrase tout sur son passage, comme le Dieu qui prend la défense des opprimés, celui qui est là pour libérer tout homme de toute forme d'esclavage, mais aussi après s'être révélé à Israël comme étant le Dieu qui a un projet pour tout homme quel qu'il soit, le Dieu qui est fidèle, qui avait fait la promesse au père d'Israël, au patriarche d'Israël, et qui venait de l'accomplir. Après tout cela, Israël s'est lancé dans ce périple, dans cette longue marche, dans cette marche, mes amis, harassante, cette marche qui va l'amener de rive en rive, de rivage en rivage, d'étape en étape, gloire à Dieu. Et les trois étapes que nous avons examinées la fois dernière sont celles d'abord, l'étape qui les a amenés sur le rivage de la mer de Jonc ou de la mer de Roseau, qui a été un très grand obstacle pour eux. Et puis ensuite, il y a eu l'étape de Mara. Après avoir traversé la mer de Jonc ou la mer de Roseau, ils sont arrivés à Mara. Et puis il y a eu, enfin, la troisième étape qui a fait l'objet de notre partage la fois dernière. Ils sont arrivés donc à Élim. Trois lieux différents, mes amis, qui correspondent à trois étapes, à trois saisons qu'Israël a connues après sa sortie d'Égypte, en attendant de passer par d'autres étapes. Car les trois étapes n'ont pas été les seules étapes qu'Israël, par lesquelles Israël est passé. Élim n'a pas été la destination finale, n'a pas été le terminus de leur voyage, pas du tout. Que ce soit sur le bord du rivage de la mer de Jonc, que ce soit à Mara, que ce soit à Élim, eh bien tout cela était des étapes et non pas des destinations. Alléluia. C'était donc des phases dans leur long parcours et non pas des destinations. Une destination, c'est un but, n'est-ce pas? Non, Dieu ne les avait pas délivrés pour qu'ils arrivent et qu'ils s'installent dans cette oasis à Élim, où il y avait 12 sources d'eau, 70 ou 70 palmiers qui leur donnaient de l'ombre, qui leur donnaient de la fraîcheur. L'eau, ils en avaient en abondance. Oui, Dieu ne les avait pas fait sortir d'Égypte pour qu'ils s'installent et qu'ils se disent « Enfin, nous avons quitté la terre d'esclavage, nous avons été libérés de l'oppression des Égyptiens, nous voici libres dans un lieu où nous avons de l'eau en abondance. » Vous savez, l'eau vaut plus que l'or, vous savez ça, hein? Et surtout dans un lieu comme le désert, l'eau vaut plus que tous les diamants de ce monde. Vous voyez? Ils avaient donc de l'eau à profusion, ils avaient de l'ombre que leur donnaient les 70 palmiers. Mais ce n'était qu'une étape, car plus tard, Moïse leur demandera de plier bagage, de se lever et de poursuivre donc leur périple. Et aujourd'hui, nous allons voir la manière dont Dieu a agi et agit encore en faveur de ses enfants lorsqu'il les fait passer par toutes sortes d'étapes. Il est donc important que nous voyons comment Dieu est intervenu à chaque fois qu'Israël est passé par une étape, à chaque fois qu'il se retrouvait sur un rivage, sur tel ou tel autre rivage. Quelle a été la démarche de Dieu pour intervenir en faveur de son peuple? Eh bien, pour aller plus vite, en examinant la manière dont Dieu a agi pour délivrer Israël, pour lui accorder la victoire face à ses adversaires, la manière dont Dieu est intervenu pour rencontrer leurs besoins, voyez-vous, eh bien, nous pouvons voir que les interventions de Dieu n'ont pas eu toujours la même et seule forme. C'est-à-dire, Dieu n'est pas intervenu toujours de la même manière. C'est là que nous devons faire très attention d'enfermer Dieu dans une catégorie, d'enfermer Dieu dans une boîte, et de se dire, Dieu n'agit que de cette manière-là. Mes amis, il reste souverain. Il a mille et une façon d'agir en notre faveur. La manière dont il a agi pour notre problème durant cette année ne sera pas forcément la même manière dont il agira peut-être pour le problème, pour un problème semblable en 2020. Laissons Dieu se manifester de manière tout à fait souveraine. Oh, alléluia. Ce sont des choses qui sont là devant nous. Ne limitons pas Dieu à une seule manière d'agir. Voilà pourquoi je vous mets en garde contre toute forme de traditionnalisme, de formalisme. Voilà. Voyez, Dieu n'est pas le Dieu de monotonie ou de routine. C'est-à-dire qu'il ferait les choses toujours de la même manière. À chaque fois que nous l'approchons, ou à chaque fois que nous le laissons nous approcher, eh bien nous pouvons voir
qu'il utilise mille et une façons de nous accorder ses interventions, de nous accorder la réponse à nos problèmes, de nous accorder, mes amis, la délivrance par rapport à des choses qui nous oppriment, par rapport à des situations qui nous maintiennent quelque part comme dans un cul-de-sac. Ce n'est pas parce que Dieu a agi hier de cette façon qu'il est contraint d'agir aujourd'hui ou demain de la même manière. Voyez. Car c'est là que les choses deviennent difficiles pour les enfants de Dieu. C'est là que les Romains s'empoignèrent. On a été dans une situation quelconque. On se retrouvait sur un rivage quelconque dans notre marche avec Dieu. Et Dieu est intervenu d'une certaine manière. Et puis, quelques temps plus tard, on se retrouve sur un autre rivage. Oui, le problème se ressemble un tout petit peu, mais enfin, et on s'attend à ce que Dieu intervienne comme il avait fait la fois dernière. Pas du tout. Et ainsi, nous nous conditionnons. Nous nous attendons à ce qu'il agisse comme il avait fait hier ou avant-hier, comme il avait fait il y a une année, il y a deux ou il y a trois ans. Et ne voyons pas les choses se passer comme nous le pensons, eh bien cela nous conduit, dans la plupart des cas, à la crainte, à la peur, aux angoisses, au désespoir. Non, Dieu est libre, Dieu est souverain. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voix, mes amis, sont élevées au-dessus de nos voix. Il est au-delà, mes amis, de toutes nos manières de penser. Là où nous n'avons que 10 solutions, lui en a des milliards. Alléluia. Gloire à Dieu. Deux exemples où nous voyons, pour un même problème, pour un même besoin, Dieu agir différemment. Sans parler de la manière dont le Seigneur a agi à travers tous les évangiles. Vous allez voir, il n'a pas guéri les gens de la même manière. Il n'a pas ouvert les yeux des aveugles de la même manière, n'est-ce pas? Mais je ne veux pas vous emmener dans le Nouveau Testament. J'aimerais que nous restions dans l'Ancien Testament. Première expérience, nous sommes à Mara. C'est une oasis, comme je l'ai expliqué l'autre fois, au sud-est de Suez, pour ceux qui connaissent un tout petit peu la géographie. Le peuple est en route. Après trois journées de marche, ils sont fatigués, sous un soleil de plomb, ils transpirent, ils sont déshydratés, ils sont en proie à toutes sortes de dangers, donc des serpents, des scorpions, nous l'avons vu, et vous l'avez, enfin, nous en avons parlé, longuement parlé, durant les deux dernières prédications. Et puis là, ils voient une oasis, et il y a de l'eau. Ils se disent, enfin, notre besoin va être rencontré, n'est-ce pas? Nous allons boire. Et quand ils arrivent, ils voient de l'eau, certes, mais il se trouve que l'eau était une eau amère, non potable, qu'ils ne pouvaient pas boire. Quelques siècles plus tard, suivez-moi bien, nous sommes à Jéricho. Et là, la Bible nous parle des eaux de Jéricho. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 2, pour ceux qui prennent des notes, 19 à 22. Et il se trouve que les eaux de Jéricho étaient mauvaises. C'était une menace pour la ville de Jéricho. Voyez-vous, si l'homme ne boit pas, il finira par mourir. Voyez. D'ailleurs, un des indices que les scientifiques cherchent par rapport à une éventuelle vie extraterrestre sur des planètes, des exoplanètes, c'est-à-dire au-delà des planètes au-delà de notre système solaire, c'est de trouver de l'eau. Car on ne peut pas concevoir la vie sans eau. Donc, Jéricho était menacé de mort. On ne pouvait rien faire pour que les choses poussent. Il faut de l'eau. L'homme lui-même a besoin de boire. C'est un besoin impérieux, fondamental, vital. Comment le Seigneur va-t-il s'y prendre pour résoudre cette problématique de l'eau mauvaise, de l'eau amère? À Mara, le Seigneur demande à Moïse de prendre un certain bois et de le jeter dans l'eau. Moïse s'exécute. Moïse obéit à l'injonction du Seigneur. Moïse ne se pose pas de questions quant à quelle était la nature chimique de ce bois-là, au point de pouvoir assainir, purifier l'eau. Moïse a simplement obéi, sachant qu'avec son Dieu, tout était possible. Il jette le bois dans l'eau. Eh bien, le miracle a lieu. L'eau devient douce, alléluia. L'eau devient potable. Nous sommes au début. C'est une des premières étapes par lesquelles Israël est passé. Des siècles plus tard, Israël arrive dans la terre promise. Et là, nous sommes à Jéricho. Le même problème se pose. Le prophète Élisée, qui connaissait bien l'histoire de son peuple, savait qu'à l'époque de Moïse, pour purifier l'eau, on avait utilisé quoi ? Un morceau de bois. Il aurait pu dire, « Seigneur, montre-moi le bois que je dois prendre pour aller purifier les eaux de Jéricho. » Ce qui n'a pas été le cas. Voyez-vous, pas du tout. Là, Élisée est conduit par le Saint-Esprit, il va simplement demander un plat de sel. On lui amène du sel. Et il va à la source, là où l'eau partait, il met ce sel. La Bible nous dit, à partir de ce geste, les eaux de Jéricho sont assainies. Elles sont devenues de nouveau potables. Vous voyez, mes amis, face à la même problématique, le Seigneur s'y prend. Évidemment par un miracle, mais il n'utilise pas toujours la même chose. Alors ne les limitons pas, ne disons pas, mais Seigneur, où est le bâton de Moïse? Comme nous le verrons, non, Moïse est parti avec son bâton. Mais le Dieu qui lui avait demandé de lever son bâton sur le sol de la mer de Jonc, ce Dieu-là est encore avec nous. Lui peut te demander de lever simplement la main au lieu du bâton, et il agira. Alléluia, gloire à Dieu. Revenons à notre thème et à notre vérité selon laquelle Dieu intervient toujours d'une manière particulière, d'une rive à l'autre. On ne peut pas, à partir d'une expérience qu'on a faite avec lui sur une rive, dire bon voilà, on codifie tout ça, on met tout ça sous forme d'une équation mathématique, et puis dire voilà la formule. On met ça dans la poche. Et quand on arrive sur un autre rivage, on est confronté au problème qui se ressemble un tant soit peu. Alors on dit, ah, la formule est où? Paf, on fait sortir la formule. Tac, 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 tac. Et puis on attend que Dieu agisse. Non. Il est libre. Il est souverain. Il a mis une tour dans sa gibecière. Il a mille et une façons, mes amis, d'agir. Gloire à Dieu. Nous allons prendre juste deux histoires, toujours en rapport avec le peuple d'Israël, qui illustrent, mes amis, cette vérité. Deux histoires, dans deux lieux différents, à des époques différentes. Voyez, face aux problèmes qui se ressemblent un tout petit peu, nous allons voir que Dieu va s'y prendre autrement. Je crois qu'aujourd'hui, on n'aura pas le temps de parler de ces deux histoires, de ces deux cas, de ces deux lieux où Dieu va agir de manière tout à fait particulière, alors que c'est toujours son peuple, voyez-vous, face à un grand obstacle. Deux histoires qui sont donc une vraie illustration de cette vérité. La première, c'est celle des Israélites, sous la conduite de Moïse, qui arrivent sur le rivage de la mer des roseaux, afin de la traverser. On en a parlé, j'aimerais revenir, car il y a encore des leçons. Des leçons, mes amis, dans la présence, ou dans la manière dont Dieu est intervenu, alors qu'Israël était sur le bord de la mer des roseaux. Nous sommes au chapitre 14 du livre de l'Exode. Et enfin, le deuxième cas, la deuxième histoire, c'est celle des Israélites, encore les Israélites, le peuple de l'ancienne alliance, sous la conduite, cette fois-ci, non pas de Moïse, mais sous la conduite de Josué, sur le rivage, non pas de la mer de roseaux, mais sur le rivage du fleuve Jourdain. Ils ont traversé la mer de Jonques ou la mer de roseaux. Ils ont erré à travers le désert. Durant leur pérégrination, ils sont passés par toutes sortes d'étapes. Et enfin, ils arrivent. La terre promise est là, dans toute sa splendeur, dans toute sa magnificence, dans tout son éclat. Voyez-vous? Et là, entre eux et la mer, plutôt, et la terre promise, cette terre de béatitude, il y a quoi? Il y a le Jourdain. Comment Dieu va-t-il s'y prendre? Josué va-t-il reproduire ce que son mentor avait fait? Car quand ils avaient passé, qu'ils avaient traversé la mer de Jonques ou la mer de roseaux, Josué était là, oui ou non? Il avait vu comment son mentor, comment son maître s'y était pris. Voyez-vous? Allait-il reproduire cela en disant, de toute façon, c'est le même Dieu? Pas du tout, pas du tout. Voilà la leçon. Voilà la vérité sur laquelle j'aimerais attirer notre attention. Dans les deux cas, face à la mer de roseaux et face au Jourdain, le peuple se retrouve sur le rivage, et en face d'eux, il y a donc des obstacles qu'ils doivent affronter. Par rapport au rivage de la mer de Jonques, il n'y a pas que cette mer, cette vaste mer, qui est là, mes amis, comme un défi à relever, mais impossible pour eux. Mais il y avait aussi les Égyptiens. Le Pharaon et son armée puissante qui venaient. Ils se sont retrouvés comme pris dans une tenaille. Voyez-vous? Pris en tenaille. Entre les deux. Que faire? Et de l'autre côté, avec Josué, il n'y avait pas d'armée qui les poursuivait. Il y avait juste cet obstacle qu'il fallait traverser, ce fleuve qu'il fallait donc traverser avant de prendre possession de la terre promise. Et gloire à Dieu. Comment le Seigneur intervient-il dans les deux situations? Eh bien, d'abord, et ça, nous l'avons lu et nous le savons, il intervient de manière miraculeuse. C'est lui qui les a conduits de cette manière. Il les a conduits à dessein, dans des situations difficiles, afin de manifester sa gloire. Il est important que cette bande d'anciens esclaves, ces hommes qui sont nés sur une terre étrangère, qui ont grandi avec cette mentalité d'esclave, ces hommes qui ont vécu dans un contexte d'idolâtrie, car il y avait plusieurs divinités adorées, servies, comme en Égypte. Vous n'avez qu'à regarder au panthéon égyptien, vous verrez qu'il y avait toutes sortes de divinités. Le pharaon lui-même, fils du soleil, était considéré comme étant une divinité. Il était donc important que ce peuple puisse, mes amis, connaître qui était le Dieu qui les avait délivrés. À quoi il est destiné? Qu'est-ce que ce Dieu-là attendait d'eux? Car Dieu ne fait jamais les choses au hasard. S'il t'a conduit dans cette situation, mon frère et ma sœur, même si cette situation te dépasse, même cette situation, eh bien, est très difficile, éprouvante, ne t'en fais pas. Il sait ce qu'il fait. Il faut in fine que tu voyes, que tu contemples de tes propres yeux les différentes interventions miraculeuses de ces dieux-là en ta faveur. Si, par nous-mêmes, nous pouvions résoudre tout le problème, ben, nous serions en droit de remettre en doute certaines déclarations de la Bible. Oui ou non? Mais oui. Mais il faut que nous passions par des moments de désert. Il faut que nous connaissions des moments de privation. Il faut que nous connaissions des moments d'épreuve. Il faut que nous connaissions des périodes d'aridité, de sécheresse, des périodes où nous aurons l'impression que tout est contre nous sur cette terre, où nous aurons l'impression que tout le monde nous a abandonnés. Il faut que nous arrivions à un point de notre vie où nous ne savons plus quoi faire. Notre barque est ballottée, elle tangue, elle est menacée de naufrage. Il faut que nous arrivions à un point où on est en plein désert. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un désert? On ne peut pas planter, on ne peut pas cultiver, on ne peut pas moissonner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh oui, il faut que nous passions par des moments pareils pour voir de quoi notre Jésus est capable. Il est celui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Il faut que nous arrivions à comprendre que peu importe les circonstances, celui qui conduit l'histoire de l'humanité, celui qui écrit l'histoire grand H par sa main toute puissante, même lorsque nous avons l'impression que les choses nous dépassent, même lorsque nous avons l'impression que les nations, sont en train d'écraser tous ceux qui appartiennent au Seigneur, même avec ça, le Seigneur est à l'œuvre. Il est le Dieu Tout-Puissant, le guerrier redoutable. Quand il entre dans une guerre, on connaît l'issue d'avance, alléluia, et gloire à Dieu. Il intervient de manière miraculeuse. Mais comment intervient-il dans les deux situations? Commençons avec l'étape de la mer des roseaux de Jonques, là sur ce rivage. Voyons de près ce qu'il se passe. Ils ont été délivrés, ils ont vu comment l'Égypte a été confondue, comment Dieu a jugé les unes après les autres les divinités égyptiennes, car les 10 plaies, ce n'était pas simplement des plaies comme ça. Si vous étudiez tout ça à l'aune de l'histoire de l'Égypte, vous verrez que c'était des jugements d'abord dirigés contre les divinités adorées en Égypte. Dieu les a toutes confondues. Il les a toutes terrassées. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il est le Dieu des dieux. Vous comprenez pourquoi dans le cantique, oui, ça vaut la peine de l'acclamer. Il est le Dieu de Dieu. Vous comprenez pourquoi ils ont chanté, ils l'ont dit, qu'il est, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Ça, c'est après la sortie d'Égypte, dans ce cantique que le peuple d'Israël a chanté, alors qu'ils étaient sur l'autre rive de la mer de Jonques. Mais ici, nous sommes sur le premier rivage. L'Égypte est derrière, l'armée des pharaons est derrière, et devant, il y a cette mer. Et en voyant les Égyptiens venir avec leurs chars, avec leurs cavaliers, à la tête de cette armée puissante, Pharaon lui-même considéré comme une divinité. En voyant tout cela, ne pouvant pas s'échapper, puisqu'il y a l'eau, on ne peut pas s'échapper, le peuple a commencé à paniquer. Le peuple tremble. Les Israélites sont remplis de crainte à la vue de cette armée puissante. Et c'est là que Moïse les rassure, alléluia. C'est là que Moïse les rassure. Quelle heure, dit-il? Soyez sans crainte. Restez en place. Et voyez comment le Seigneur va vous sauver aujourd'hui. Le Seigneur combattra pour vous. Mais vous, gardez le silence. C'était un message particulier. Dans ce contexte de bataille et de guerre, le Seigneur leur assure par le biais de son serviteur. Le Seigneur leur donne un message qui fortifie leur confiance. en leur disant, ne tremblez point, soyez sans crainte, c'est le Seigneur lui-même qui combattra pour vous. Alléluia. Mais ça ne s'est pas arrêté simplement au niveau des promesses. Hein. Dieu donne sa parole, mais il se tient derrière elle pour l'accomplir. Ça, c'est une des leçons. Ce n'est pas simplement un donneur de leçons. Fais ceci, fais cela, et puis lui se retire. Non. Quand il donne sa parole, quand il donne sa promesse, il se tient derrière elle pour l'accomplir. Alléluia. Il a dit, je combattrai moi pour vous. Soyez sans crainte. Soyez en paix. Ne tremblez point. Et Moïse dira même, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Il y a des rivages dans nos vies, des étapes dans nos vies, qui nous amèneront, mes amis, à expérimenter, ou à expérimenter en effet ce qu'Israël a expérimenté ce jour-là. Nous avons des situations difficiles devant nous. Nous ne savons pas comment déplacer toutes ces montagnes. Des montagnes de problèmes, des montagnes d'épreuves. Et puis, derrière nous, les gens cherchent notre destruction. Ils veulent notre mort. Ça ne les arrange pas que nous ayons cette responsabilité. Ça ne les arrange pas que nos affaires prospèrent. Ils essayent par tous les moyens, mes amis, pour mettre le feu à nos affaires. Ils font tout. Et quand on est dans un contexte comme ça, c'est peut-être votre cas aujourd'hui, eh bien écoutez ce que le Seigneur a à vous dire. Soyez sans crainte. Ne tourne pas de regards inquiets, mon frère, ma sœur. Sois sans crainte, comme pour Israël. Reste là, ne fais rien. Ils n'ont rien fait. Hein? Ne fais rien. Vois seulement la délivrance que le Seigneur va t'accorder. C'est tout. N'essaye pas de prendre quoi que ce soit pour essayer de résoudre le problème. Garde ton silence. Ça veut dire quoi? Continue à servir le Seigneur comme tu l'as toujours fait. Ne te laisse pas impressionner. Ne te laisse pas arrêter dans ton zèle pour le Seigneur. Ils ont beau crier comme des hyènes. Ils ont beau, mes amis, hurler comme des hiboux pour vous effrayer. Eh bien, ne cédez pas. Ayez vos regards fixés sur lui. Il est assis sur le trône et aucune hyène ne peut vous détruire. Aucun prédateur ne peut arriver à vous prendre ce que Dieu vous a donné. Ce que le diable cherche, c'est de vous faire peur afin que vous quittiez sa main, la main du Seigneur. Car tant que vous êtes dans cette main, vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. La Bible nous dit que nos vies sont cachés en Dieu avec nos vies. Ma vie est là-haut. Voyez-vous? Quand je suis tombé malade, c'était une preuve, je rends grâce à Dieu. Car comme j'ai dit à plusieurs, ça a été un moment de retraite pour moi. Voyez-vous? Eh bien, les gens commençaient à spéculer. Notamment, quelqu'un a dit, une prophétie, que voilà, c'est quelqu'un qui a vécu ici, qui est parti, qui serait parti voir les sorciers de sa province. Et ces sorciers se seraient peut-être constitués en une corporation, en une ONG, en une ASBL, dont l'objet était de m'achever. Ah bon, si les démons, si les sorciers de cette province-là avaient cette capacité de gravir les marches pour arriver jusqu'au trône de la grâce, où ma vie se trouve en Dieu, alors il y a longtemps ces sorciers auraient imposé leur loi à l'humanité. Non. Non. Nos vies sont cachées. Dieu peut permettre que nous soyons attaqués dans ce corps. Mais ce corps, que nous ne le voulions pas, sorcier ou pas, démon ou pas, maladie ou pas, ce corps retournera à la poussière. Et s'il ne retourne pas à la poussière, au retour du Seigneur, eh bien, il sera transformé, métamorphosé en un clin d'œil. Voilà. Si vous êtes dans cette configuration de l'étape de la mer de Jonques, soyez sans crainte. Dieu sait comment vous a vous délivrer. Il commence par vous rassurer. Ne courez pas, ne cherchez pas des prophètes. Ce sont des gens qui rendent un très mauvais service à l'Église du Christ aujourd'hui. Je vais faire un séminaire dans l'année prochaine, je ne sais pas quand, où nous allons parler de la prophétie. L'Église de Jésus-Christ est la prophétie. Nous allons examiner tout ce que la Bible a à nous dire concernant cette notion de prophétie qu'on met à toutes les sauces. Aujourd'hui, les gens se présentent comme des prophètes. Mes amis, ils rendent. Dieu ne. Ah, ce que je voudrais vous dire. La volonté de Dieu, c'est que nous grandissions en maturité. La volonté de Dieu, que nous devenions matures, que nous croissions. Dès lors où un homme, prophète fut-il de son état, vous maintient dans une sorte de dépendance, cela ne peut pas venir de Dieu. Même s'il a la bouche, dans sa bouche le nom de Jésus. Dieu nous a sauvés et il nous destine à la liberté. Alors ne vous laissez pas servir par un prophète, par un apôtre, par un pasteur, au point où à chaque fois que vous devez faire quelque chose, vous devez lui envoyer un SMS. Lui demander ce que Dieu a dit. Ce n'est pas biblique. Ce que Dieu veut, que vous appreniez à le chercher à travers la Bible. Mais non. Dieu parle par des prophéties. Moi-même, j'en ai reçu. Moi-même, j'ai été aussi un outil pour les autres. Je leur ai donné des prophéties. Mais cela ne doit pas prendre la place de la parole de Dieu et de la Bible. Non. Voilà pourquoi l'Église aujourd'hui tourne en rond. Elle n'avance pas. Regardez, l'autre fois je suis parti quelque part vers Limété, où j'avais rendez-vous avec un frère pour prier. Je passe souvent sur le boulevard, mais je vous assure, j'étais étonné, surpris de voir le nombre d'églises. Les unes à côté des autres. Et souvent, des églises qui portent de noms bizarroïdes. Voyez, tout ça pour attirer. Et devant les églises, c'est des photos, des photos de leurs, enfin, comme ils les appellent, les visionnaires ou je ne sais pas quoi, des prophètes, des apôtres dans des postures. Je me suis dit à moi-même, si vraiment Dieu travaillait, il y a longtemps, Limété aurait été débarrassé des prostituées. Il y a longtemps, Limété aurait été débarrassé, mes amis, de cette mentalité de l'enfer qui maintient les gens dans la confusion. Limété n'était pas comme ça, hein. Oh, je me souviens de l'époque où vous aviez des rues, vous aviez des quartiers résidentiels. Là, Dieu ne parle pas. Il y a eu des inondations, hélas, qui ont emporté des maisons. Là, Dieu ne parle pas. Aucun prophète ne dit, non, 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 Dieu m'a dit, vous ne devez pas construire là-bas. Ah. Pourquoi les prophètes verraient toujours ce que vous avez fait dans le passé? Ce que les parents ont fait à votre place? Oui, Dieu a dit. Et quelquefois, ce sont les informations qu'ils ont. Et moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un se comporte de cette manière. J'ai appris que, et puis je viens, tac, 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 Dieu m'a dit, allez, s'il vous plaît, je me demande s'ils ont encore une conscience. Craignons Dieu! Parmi les 10 commandements, il y a celui-ci. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Mes amis, j'ai l'impression que nos églises, je dis nos églises, la borne y compris, nous avons de la peine à vivre pleinement tout ce que Dieu a promis de faire à cause de ce genre de choses. Dieu a dit, on a tout le temps. Ça, c'est une attitude répréhensible aux yeux de Dieu. Le péché, ce n'est pas seulement tuer. Le péché, ce n'est pas seulement voler. Eh bien, le Dieu qui a dit « tu ne tueras point », le Dieu qui a dit « tu ne commettras pas adultère », le Dieu qui a dit « tu n'adoreras pas d'autre Dieu que lui », est aussi, je dis bien, est aussi qui a dit « tu ne prendras pas mon nom ». Alors pourquoi on ne respecte pas ce commandement? Et le Seigneur, dans ce contexte-là, le peuple paniqué, avec la parole de Dieu, Moïse les rassure. Oh, rien ne peut remplacer la parole de Dieu. Et là, la vertu, la capacité de nous consoler, la capacité de nous rendre sages, la capacité de nous rendre matures. Mangez cette parole. Apprenez à la savourer. Apprenez à vous en délecter. C'est cette parole qui va vous transformer. Non pas des prophéties, et souvent des prophéties qui rencontrent certaines attentes, certaines prédispositions. Voilà, on est prédisposé à entendre cela. Et quelquefois, ces gens-là vous font une sorte de relation d'aide qu'ils appellent à tort, et de manière abominable, cure d'âme. Je vous avais dit, je n'aime pas cette formule. D'abord, elle n'est pas biblique, elle nous vient des anglo-saxons, qui eux-mêmes aujourd'hui ne l'utilisent plus. Comme ça, ne dites pas le pasteur bon de contre tout. Ce n'est plus utilisé. Parce que ça donne l'impression que la personne qui fait la cure d'âme, conduit la cure d'âme, est une sorte de chirurgien spirituel qui, avec son bistouri, va ouvrir le cœur pour aller voir ce qu'il y a. Dieu ne nous demande pas. Ça, c'est cette façon intrusive de se comporter n'est pas du tout biblique. On voudrait savoir qu'est-ce que votre maman a été, en quoi ça vous regarde. Vous êtes de quel originaire? Ah! Oh là là! Est-ce que votre maman, vous n'avez pas un grand-oncle ou une tante qui avait tel ou tel autre fétiche? Oui, ah oui, Dieu me dit que c'est ça. Dites-moi, il y a 50 ans d'aujourd'hui, il y a 50 ans d'ici, il n'y avait pas autant d'églises. Les gens allaient où? Dites-moi, les gens allaient où? Ils allaient consulter les mandores, je ne sais pas comment on les appelle, ces femmes qui prédisent, ils allaient consulter les nganga, tout ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas étonnant que quelqu'un vous dise que votre ancêtre avait été dans les histoires mystiques, mais tout le monde le faisait. Ce n'est pas un scoop. Ce n'est pas un scoop. Alors vous dites, quelle onction. Quelle onction. Alors là, il se met à délirer pour vous impressionner. Vous pensez qu'il parle en langue. Souvent, c'est des délires. Psychotiques. Oui. Il y a une étape psychologique où les gens délirent, hein. Il y a des paroles qui sortent, des paroles coercitives qu'il ne peut pas maîtriser. Vous pensez qu'il parle en langue, mais il délire. C'est de vrais délires. Il y en a beaucoup qui devraient se faire soigner. Hein. Mais oui, ils passent tout leur temps à jeûner, c'est une bonne chose. Mais quand on transforme le jeûne en une sorte de magie, ce n'est plus biblique. Vous ne mangez pas, vous êtes privé de beaucoup de protéines, de vitamines et tout ça, vous ne buvez pas comme il faut, eh bien, le corps commence à trembler, vous n'arrivez plus à vous maîtriser, vous dites de quoi rapide. Vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui parle. Pourquoi le Saint-Esprit parlerait seulement en déformant la voie? Gloire à Dieu. Dieu dit simplement, Moïse, je vais terminer par là. Étends ta main sur la mer. Moïse obéit. Comme plus tard, il lui demandera, prends ce bois, jette-le dans l'eau amère. Là, il lui demande de prendre son bâton. Ce n'est pas que le bâton de Moïse avait un certain pouvoir magique, non. Moïse agit selon l'ordre du Seigneur. Il lève sa main avec son bâton. il est temps sur la mer, quelque chose va se passer. La Bible nous dit, cette nuit-là, le Seigneur, en voyant le vent d'Est, ou le vent d'Orient, et le vent d'Orient souffla toute la nuit. C'est ce vent d'Orient qui a fendu la mer et qui a permis qu'il y ait un passage. Le vent d'Orient. Ce qui est formidable, c'est que quand vous allez dans Ésaïe 63, Ésaïe nous apporte la révélation là-dessus, que c'est le Saint-Esprit qui conduisait Israël. Oh, alléluia! Ézéchiel, je reviendrai là-dessus parce que je dois terminer. Ézéchiel nous dira plus tard, dans cette vision qu'il avait reçue des ossements dans cette vallée, le Seigneur lui dit, « fils d'homme, prophétise, parle à l'Esprit, prophétise, tu diras à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Esprit vient de quatre vents. » Et cette nuit-là, le vent d'Orient s'est mis à souffler. Et quand ce vent souffle, il emporte tous nos obstacles. Nous sommes là simplement contemplés. Et il nous fraye un chemin. Alors, ne tourne pas de regards inquiets. Ne t'effraye pas. Sois sans crainte. Aie tes regards fixés sur Jésus. Lui seul est capable d'envoyer son vent d'Orient. Et ce vent-là va balayer tous ces obstacles. Et quand tu ouvriras les yeux, il n'y aura plus rien. Si c'est un boulevard tracé pour toi, et tu t'engageras à pied sec, en louant, en adorant le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Sur chaque rivage, il a sa manière d'agir. Il a envoyé le vent d'Est, le vent d'Orient. Voyez-vous, Israël n'avait rien à faire. Sinon s'asseoir, certes, il y avait le bruit des bottes des Égyptiens. Certes, il y avait la mer. Et c'est rare dans ces régions que la mer soit calme. Elle devait être agitée par un autre vent. Jusqu'à ce que cette nuit-là, le Seigneur envoie le vent d'Orient. Et ce vent tout balayé. Celui qui avait envoyé ce vent-là est celui qui est avec toi, mon frère et ma sœur. Tu es sur cette rive, sur ces rivages. Tu te dis, comment vais-je avancer? Les problèmes me dépassent. Ces obstacles sont infranchissables, humainement parlant. Même en allant chercher de l'aide auprès de telle ou telle autre personne bien placée, je ne vois pas comment ce problème se résoudrait. Derrière, ce sont des chacals, des hyènes, des caïmans, des ténèbres qui veulent ma mort. Comment faire? Ok, garde silence. Continue simplement à louer ton Dieu. Et quand la nuit viendra, sans que tu fasses quoi que ce soit, il enverra son vent. Et quand son vent se mettra à souffler, cette hyène-là qui te montre ses crocs, quand le vent va souffler, eh bien, elle partirait comme une feuille morte. Et quelquefois, tu seras toi-même étonné. C'est lui. Il a emporté comme ça. Oui, avec ton Dieu, tout est possible. Acclamons-le. Est-ce qu'on peut couper le ventilateur? Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Notre vie, à l'instar de celle d'Israël, ressemble à un voyage qui nous amène, Seigneur, d'étape en étape, de rive en rive, de rivage en rivage. Toi seul connais sur quel rivage nous nous trouvons aujourd'hui. Pour certains d'entre nous, C'est un rivage sur lequel ils sont confrontés à toutes sortes de problèmes, comme Israël sur les berges de la mer des roseaux. La guerre fait rage. Seigneur, ils ne savent pas où aller. Mais ce matin, tu as donné à ton peuple, à ceux-là, cette parole de garder silence. Car toi, tu vas combattre pour eux. Aide-le à rester attaché à toi jusqu'à ce que tu envoies le vent d'Orient. Car lorsque ce vent se met à souffler, rien ne peut lui résister. Même les eaux puissantes de la mer sont incapables de lui résister. Et quand ce vent souffle, là où nous ne pouvions pas passer, là où il nous semblait impossible qu'une route se fasse, quand ton vent souffle, là tout d'un coup, il y a un boulevard qui s'ouvre à nous. Nous pouvons nous engager avec assurance et aller de succès en succès, de victoire en victoire, de réussite en réussite, alléluia. Tu es le Dieu de Moïse. Moïse est parti. Tu es notre Dieu aujourd'hui. Alors aide-nous, Seigneur, à te faire confiance. Merci pour tout. Garde-nous fidèles à toi. Merci pour tout. Bénis.